Et nous sommes aujourd'hui avec Pierre Dumousseau, le chef d'orchestre qui fait ses débuts à l'Opéra de Paris et dans Hamlet à partir du 8 mars. Bonjour Pierre.
Bonjour Camille.
Est-ce qu'on pourrait avant tout parler des conditions dans lesquelles vous avez débarqué au milieu de cet Hamlet?
J'étais au Japon à la toute fin du mois de janvier pour retrouver un orchestre que j'aime très fort, qui est l'ensemble orchestral de Kanazawa. Et j'ai reçu un message me demandant de remplacer Thomas Engelbrock dans Hamlet à Bastille, dans une nouvelle production de Christophe Barlikowski avec Ludovic Tézier et Lisette Oropeza. Je me suis douté que cette proposition était venue parce que j'avais dirigé cet ouvrage il y a 3 ans à Angers, Nantes et Rennes avec l'ONPL. Et en fait, disons qu'on était en cours de construction d'une relation avec l'Opéra de Paris déjà, puisque j'y dirigeais un ballet à l'Opéra Garnier il y a 1 an et demi, un hommage à Roland Petit avec l'orchestre Padeloup. Suite à cette production, l'Opéra m'a proposé de revenir cette saison pour diriger un autre ballet, toujours à Garnier, mais cette fois avec l'orchestre de l'Opéra de Paris. C'est l'Histoire de Manon qui clôturera la saison chorégraphique au mois de juin et juillet. Donc finalement, ça n'a été qu'une anticipation de quelques mois de ces débuts qui ne sont pas vraiment des débuts dans le sens où j'ai déjà travaillé à l'Opéra de Paris, mais ce sont mes débuts avec l'orchestre de l'Opéra de Paris et j'en suis très fier, heureux et apaisé de les rencontrer sur un opéra que je connais bien plutôt que sur un ballet que eux connaissent bien.
Alors précisément, cet opéra que vous connaissez bien, c'est Hamlet, un opéra d'une grande singularité. Le héros est un baryton, il est long, c'est du grand opéra à la française. Racontez-nous.
À vrai dire, Thomas avait pensé ça pour un ténor et c'est le directeur de l'Opéra de Paris qui lui a dit, mais au fait, on a Jean-Baptiste Faure qui est notre plus grand baryton français et ce serait un sacré coup de confier le rôle-titre à un baryton et ça en a fait l'un des rôles à la fois phare et fleuve de la tessiture de baryton. C'est une œuvre très très singulière parce que en général, d'Ambroise Thomas, on ne connaît que le vilain commentaire de Chabrier qui, je crois, est jaloux. Simplement, en tout cas, qui aurait des raisons de l'être.
Vous avez remarqué que je vous l'ai épargné.
Je vous remercie et hélas, je suis tombé dans le piège. Je pense, pour avoir pratiqué aussi cette œuvre à l'Opéra de Munich il y a quelques années, qu'on ne peut pas ne pas considérer Hamlet dans son miroir avec Mignon, puisqu'on pense qu'Hamlet est postérieur, mais en fait, leurs processus de création sont inextricablement liés. Et autant Mignon est une musique de boîte à musique, une œuvre comme ça diaphane sur ce personnage un peu asexué, très fragile, autant je pense que dans Hamlet, on a le pendant absolument ténébreux. Il y a très peu de lumière dans cet opéra, en fait. Tout est sombre, tous les personnages sont traités méticuleusement, avec aucune pitié, et on retrouve cet antagonisme. Lumière ténèbres à l'intérieur même de l'œuvre avec Ophélie Hamlet, dont l'amour ne se rencontre jamais véritablement, à part au duo du premier acte, et qui ne feront ensuite que s'opposer, ne pas se comprendre, ne pas se rencontrer, pour finalement mourir chacun de leur côté. Alors, mourir pas vraiment pour Hamlet, parce qu'on est en France et que, bien sûr, il y a la querelle de Covent Garden, tout ça, mais c'est un peu anecdotique finalement.
Vous avez parlé justement du baryton. Il y a une chose qui est manifeste en France, c'est que la France a toujours pu s'enorgueillir de ses barytons. Hamlet a triomphé avec Stéphane de Gou, et maintenant c'est Ludovic Tézier qui va triompher. Est-ce que vous avez déjà pu travailler avec vos chanteurs? Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça se passe?
On est au travail et à vrai dire, je n'aurais jamais pu imaginer que ça se passerait aussi bien, je vous le dis très sincèrement. Mais finalement, je comprends que c'est la marque des très grands artistes d'être dans une préparation absolue qui leur permet d'offrir une flexibilité totale, de presque nous faire croire que c'est nous qui décidons, alors qu'on sait très bien qu'en dernier lieu, ce sont eux qui vont chanter, interpréter et tenir la ligne de leur rôle en tout cas. Non, je suis arrivé avec beaucoup d'humilité devant ces immenses artistes. Je la garde bien sûr, mais en pouvant maintenant les considérer sinon comme des amis, en tout cas comme de chaleureux collègues. Et je crois que ça se passe de la même manière avec Christophe Warlikowski, qui semble heureux de créer ce nouveau spectacle avec la distribution, avec le chœur qui sera très présent en scène. Je dois dire que je me pince tous les matins devant une production d'opéra avec autant d'enjeux, avec autant de lourdeur potentielle, et qui se passe finalement de manière aussi fluide et collégiale.
Varlikovski, Krzysztof Varlikovski, vous l'avez évoqué, on lui doit certaines des plus belles heures de l'Opéra de Paris, on lui doit aussi certains magnifiques scandales à l'Opéra de Paris. Il vous dira évidemment que le public parisien est intrinsèquement réactionnaire, mais qu'en est-il néanmoins de cette mise en scène dont vous avez peut-être pu voir déjà quelques éléments?
Oh, vous vous doutez qu'il n'y a pas de grande robe, ni de velours dans le décor. C'est pas vrai d'ailleurs, il y a du velours dans le décor. Ce sera une très belle mise en scène de Christophe Varlikovski avec des figurants qui font partie de la famille Varlikovski, avec l'univers, les décors, les costumes de la famille Varlikovski, parce que c'est vraiment une famille, Christophe Varlikovski. J'ai entendu, mais peut-être est-ce un secret, que c'est Ludovic Tézier lui-même qui a choisi de travailler avec Christophe Varlikovski pour cette production. Et je pense que c'est un symbole fort de savoir que quand on propose ce rôle à Ludovic Tézier, qui, selon les apparences, n'en a plus tout à fait l'âge, choisit de confier ça à un metteur en scène qui n'en fera pas quelque chose de conventionnel et qui pensera et repensera la chose. Et voilà, moi, je suis subjugué
Pardonnez-moi de
de
vous interrompre, maestro, mais vous me permettrez simplement d'ajouter qu'il n'y a pas grand monde qui, en réalité, a l'âge de Hamlet ou de Ophélie ou de Fiordiligi, et que c'est pas l'âge de Ludovic Tézier qui est en question, mais plutôt l'incongruité entre un personnage très jeune et puis le manque de chanteur de cet âge réel.
Vous avez tout à fait raison, j'avais même pas pensé que je pouvais être offensant à l'égard de Ludo.
Je dis ça pour vous éviter un mauvais quart d'heure en débriefing demain.
Je vous remercie. Non, mais voilà, tout ça pour dire que au-delà de la direction d'acteur qui est absolument fascinante avec Christophe, c'est surtout que moi je prends un cours magistral de psychologie tous les jours de 10h à 22h, et que c'est fascinant de voir un si grand homme de théâtre réfléchir sur la toute petite pièce qu'est Hamlet de Shakespeare. Et par ailleurs, je pense que c'est une pièce qui véhicule des valeurs tellement intemporelles, universelles, que elle se prête tout à fait bien à une décontextualisation ou à une transposition dans quelque univers que ce soit.
Alors finissons-en peut-être avec la question qui fâche, bien que vous n'avez pas l'air de vous fâcher facilement, mais il y a cette rumeur qui a envahi Paris sur des coupures qu'on aurait dit considérables. Qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez vous exprimer? Est-ce que vous êtes libre de faire un commentaire?
Vous pouvez rassurer la rumeur, la coupure considérable fut rafistolée, scotchée, collée, de sorte qu'on n'en verra même plus la couture. Non, pour être plus sérieux, Alexandre Nef tenait à ce que cette œuvre, qui, je le précise, n'a pas été donnée à l'Opéra de Paris depuis la Seconde Guerre, hein. La dernière production, c'est 1937. Donc, Alexandre Nef tenait à raison à ce qu'elle soit donnée dans la plus grande intégralité possible. Quand je suis arrivé, la situation était encore très ouverte. Cette idée de grande coupure a été très vite oubliée, sur un consensus général d'ailleurs, et personne n'en garde aucune rancœur. Et donc, aujourd'hui, la liste de coupures est plus que minimaliste. Les seules coupures qui ont été pratiquées le sont, disons, un peu par, pas par convention, mais parce que l'œuvre, évidemment, est d'une grande longueur. Et que, bah, comme vous le savez, un grand opéra à la française implique cinq actes et un ballet, que bien sûr, le ballet n'intervient plus dans les opéras de nos jours, ou en tout cas plus sous la forme à laquelle il était employé à l'époque. Néanmoins, on a réussi à conserver une grande partie du ballet, et je m'en réjouis et je m'en félicite. C'est une très belle musique qui implique le chœur aussi, donc c'est un geste assez original d'Ambroise Thomas. Donc le ballet est là, que ces aficionados s'en soient rassurés. Et la seule coupure minime qui a été pratiquée, pour ne rien vous cacher, dans le premier acte, est notamment conditionnée au fait que, pour des raisons dramaturgiques, Krzysztof Warlikowski a souhaité que l'entracte prenne place non après le deuxième, mais après le troisième acte.
Ah
Ce qui
oui.
fait une première partie excessivement longue qui devrait nous prendre à la gorge. Donc cette sensation de longueur, j'espère et je pense qu'on ne la sentira pas, en tout cas qu'elle ne sera pas pesante. Parce que justement, poursuivre jusqu'au troisième acte devrait nous couper le souffle à tous. Mais néanmoins, ça impliquait à un endroit très précis de dynamiser à peine une transition qui était un peu longue.
Et puis la longueur est une chose relative. Je rappelle que le dernier film de Lave Diaz qui était projeté à Berlin il y a 2 ans durait 9 heures et c'était sans pause. Donc on peut bien s'enfiler 3 actes à la queue leu-leu. Merci Pierre Dumousson d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Camille.